Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 19 juillet 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère s'invite dans vos oreilles et heureusement il y a les automatismes quand on se plante avec, pour commencer...
Maintenant
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV, kung-fu et héros volants.
Ouais, suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs sont directs des vestiaires, des tribunaux et de l'infirmerie et aussi du bas côté de la route. Hein.
Et ensuite...
Eh ben on n'a pas le programme et tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'FMR c'est sur 89.1 MHz jusqu'à 17h et ensuite c'est Booster FM. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Salut.
On est en direct et en public comme d'habitude, comme tous les samedis. Et oui, non, je me prépare pour les nouveaux textes, pour la rentrée. Non, ça manque de pêche et tout ça.
Ça manque de...
De souffle épique.
D'effet de foule derrière.
De grinta.
Ouais, ouais, de grinta. Et de dire, oh, c'est un ciel, c'est un oiseau, c'est une fusée, c'est un... Enfin, c'est un machin à cap, quoi. Une croquette pour qui trouve.
Oh my.
Merci d'avoir reconnu Rémi Zero Save Me. Et alias la version longue, c'est-à-dire pas la version 15 secondes du générique de Smallville. Si tu mets ton micro comme ça, évidemment, ça va faire du bruit quand tu vas le bouger. Voilà. Aujourd'hui, au programme, ma foi, il y aura du kawaii, il y aura du kung-fu, il y aura du kung-fu de super-héros et il y aura des super-héros. Et à ce sujet, avant de commencer sur les super-héros, je tiens à signaler que Joss Whedon, qui n'est pas n'importe qui, c'est le créateur de Buffy, c'est le créateur scénariste de Buffy contre les vampires, de la série Firefly, et par la suite, de l'adaptation au cinéma de la série qu'il a réalisée.
Qui s'appelle Serenity.
Serenity, voilà, j'ai oublié. C'est aussi la personne qui a sauvé le script de Toy Story. Bref, c'est vraiment un scénariste de 44 ans qui, ce qu'il écrit en général, ça cartonne, c'est génial. Il met en ligne les 3 premiers épisodes de sa série autoproduite. Dr. Horrible Singalong Blog. C'est sur l'URL drhorrible.com, horrible avec deux R. Oui, Dus.
Oui, c'est également le scénariste des Astonishing X-Men, dont bientôt le dernier numéro va sortir.
Ah oui. Eh oui, c'est vrai. Exact. Et c'est quelqu'un qui adore une chose, c'est la musicalité du son. Je sais pas si vous vous souvenez de Serenity ou de la série Firefly.
Mais en fait, Serenity, c'est le film, mais c'est dérivé de la série
Firefly. Firefly qui n'a pas franchement bien marché, mais qui, soutenu par les fans, est sorti en DVD. Devant le succès du DVD, ils l'ont sorti au cinéma. Et l'une des particularités de Joss Whedon, c'est qu'il estime que à la télévision, ce qui doit beaucoup passer, c'est le son. Ainsi, dans Firefly, on a les gens qui parlent aussi bien en anglais qu'en mandarin et en russe. Ils donnent des expressions et tout ça, et à ce qui paraît, c'est syntaxiquement correct et tout. Enfin bon, ceux qui comprennent ces langues-là disent c'est génial, ça surprend, c'est très bien. Et il a fait un épisode opéra, genre Broadway, de Buffy contre les vampires.
Ouais, Once with a Feeling, c'est le titre de l'épisode.
Tu sais que là, tu viens de briser Chantal qui a cherché de tête. Je retrouve le nom.
Non, parce que sinon, je téléphone et puis on te le ramène à la maison.
Surtout qu'il fait beau aujourd'hui.
En VO en plus.
Ah bien sûr. Bon,
surtout qu'il fait beau aujourd'hui, donc ça va être dans le jardin à l'après-show. Donc, Dr. Rebel Singalong Blog fut conçu pendant la grève des scénaristes et se veut un pied de nez à l'industrie hollywoodienne. C'est le pari qu'une série produite avec relativement peu de moyens, mais vraiment de qualité, puisse exister sans passer ni par la télé ni par le cinéma, sans la dictature du focus group, la dictature des chefs de section et tout ça, des managers qui se font la guerre, et sans finalement le calibrer pour exactement tel type de personne, en se disant, c'est très simple, on le met sur iTunes Store et ça va se vendre comme ça. C'est un pari, et pour le lancer, ce sera exclusivement sur le net, et c'est exceptionnellement en clair jusqu'à demain, donc il faut en profiter. Les 3 premiers épisodes après disparaîtront, et ce sera sur l'iTunes Store, USA et Canada, et puis c'est tout, donc n'espérez pas avoir une séance de rattrapage. Il faut le sous-titre, mais c'est quand même absolument génial. Lundi, on a eu l'épisode 1, jeudi on a eu l'épisode 2, et depuis ce matin, on a l'épisode 3. Alors, je me suis retenu, je vais cliquer, je vais le regarder et tout ça. Je suis impatient de bâcler cette émission pour le voir chez moi. Et puis voilà, quoi.
Oui, donc tu...
T'as pas lu ton script, toi.
Ah, mais attends, il y avait un script.
Attends. C'est une comédie musicale, c'est à voir, c'est en plein moment, ça se met à chanter, c'est à pleurer de rire et c'est très bien foutu. Donc voilà, je suis impatient de bâcler cette émission pour le voir chez moi.
Non, pardon, boucler. Boucler l'émission.
Je m'excuse. Des fois, on dit que c'est synonyme chez moi. Je dirais pas autant. Oui, j'ai oublié de prévenir Thomas quand même parce qu'on était un peu pris, on s'est arrivé. C'est mis en place 7 minutes avant.
On fera le montage.
C'est pas bon. Non, c'est dans les conditions du direct, même sur le podcast, tu le sais bien. Du sport, du comic box tout à l'heure à tartiner. Et on va parler de bande dessinée de super-héros. Le temps de mettre en place ces autres CD. Vous écoutez FMR 89.1 MHz. Midi 10 minutes 16 secondes et 976 millièmes sur l'horloge atomique de la poubelle des radios. Et c'est le supplément week-end numéro 165, je crois. arrêtez de parler de maths, sinon on va avoir Captain Marteau qui va arriver. Captain Marteau, lui, il adore taper sur tous les méchants, et notamment les petits garçons trop sages qui ne s'intéressent qu'aux maths et à la physique. Il dit que c'est
les pires.
Oui, bah, en général, il arrive et puis il frappe, et c'est la némésis de Docteur Horrible. C'est absolument génial. C'est une romance improbable en plus. J'aurais pas le temps de le chercher, donc je suis en train d'avancer comme un malade. Parce que je vais vous le passer, du coup, le morceau qui m'a fait hurler de rire, hein, qui est absolument génial. Mais en attendant, on va partir vers une ville fantastique. Kurt Busiek, en tant que grand architecte, Brent Anderson, en tant que grand artiste, Astro City. Leur univers fétiche. Là, on a donc un recueil d'histoires courtes qui s'appelle Héros Locaux, qui vient de sortir chez Panini Comics. Et inutile de dire, voilà quoi, c'est absolument génial, comme d'hab. Astro City, c'est cette ville mondialement connue dans le monde pour son architecture optimiste, celle des années 60, inspirée du Bauhaus, du progrès, du bonheur promis par le futur et la science. Astro City est une ville superbe, de sa foi envers l'avenir. Et elle a quelque chose en plus. Astro City est la grande ville. Celle où tous les plus fantastiques super-héros donnent le meilleur d'eux-mêmes pour défendre la veuve, l'orphelin et tout ce qui peut être innocent des dangers plus inimaginables qui nous guettent. Oui, c'est le lieu rêvé. Si vous souhaitez voir une fois dans votre vie Atomicus, Silver Agent, le Samaritain, Enforcer, Cléopatra ou l'homme léopard, tous ces gens au pouvoir inhumain qui défendent ceux au destin plus humble. Mais ce n'est pas une visite guidée d'Astro City que nous avons dans ce recueil, ni le suivi des trépidantes aventures des héros que nous allons vivre. Mais plus banalement, celle de citoyens qui, somme toute, mènent une vie tout à fait ordinaire dans une ville extraordinaire. Du groom d'hôtel, à l'adolescente mal dans sa peau, de l'avocat commis d'office pour défendre un mafieux, à la romancière qui cachetonne comme un scénariste de comics, ces petits destins sont tout ce qui donne une réelle épaisseur à cette ville. Ville idéale d'un rétrofuturiste dont les super-héros reprennent les points très précis de certains personnages de DC et de Marvel. C'est justement ça qui anime la série. Les auteurs, vieux routards du genre, ont voulu revenir à la quintessence du super-héros de comics pour en faire une œuvre très référencée, mais critique sur les âges mythiques, ceux d'or et d'argent. Et pour cela, il fallait qu'ils créent leur univers, qu'il ne soit rattaché à aucun éditeur, pour en avoir une liberté absolument totale. Une couverture d'Alex Ross insuffle le souffle épique au bouquin avant même de l'avoir ouvert. Et chaque histoire rattachée à une personne comporte son lot de surprises. Cette collection est une véritable merveille qui plaira à tous les fans d'extra-humains, cosplayers, redresseurs de Thor. Astro City, par Kurt Busiek et Brent Anderson, la mini-série Héros Locaux vient de sortir chez Panini Comics. Miracle du net et du câble réseau qui... Oui, du sport.
Ouais, c'est quand même sorti chez Wildstorm, hein, qui est quand même maintenant la division indépendante de DC Comics. Hein.
Exact, qui a été racheté. Qu'au début, c'était sorti d'ailleurs chez American Heroes, si je me souviens bien, l'éditeur. Et au départ, c'était censé être une maison indépendante, donc on crée tout un nouvel univers, on repart de zéro et tout ça. Et en même temps, on va se permettre d'aborder certains thèmes qui intéressent plus les fans ou les critiques, et d'un autre côté, ben le truc pour les gamins et tout le reste. Et là, ils sont allés, ben ils sont fait racheter, mais ils ont gardé leur indépendance ce côté-là. Et en soi, ça n'est absolument pas.
Ça permet surtout à DC Comics de pouvoir sortir et de pouvoir éditer des.
C'est des trucs de qualité, ça change.
Des histoires qui ne sont pas rattachées à l'univers DC et qui n'ont pas besoin d'avoir à voir, à rendre des comptes par rapport à la galaxie DC, tout simplement.
Alors, j'ai quelque chose. Alors, le problème, c'est que vous, qui n'avez pas la couleur, vous pouvez pas le voir. Et comme il n'y a pas de moniteur de contrôle côté animateur, ben, il faut qu'ils viennent de mon côté pour voir. Donc, c'est ce moment absolument à pleurer de rire. Où, donc, eh ben, ça commence où Docteur Horrible fait son blog. Il lit des emails de gens qui lui écrivent et il va dire que oui, bon, c'est vrai, il a son archi-némésis qui est Captain Marteau et que d'un autre côté, eh ben, il a une petite amourette qui lui fait plaisir et qu'il aimerait bien voir. Alors voilà, c'est en flash, hein, donc c'est pas évident, surtout sur une petite machine, mais ça vaut le coup d'être vu, c'est à pleurer de rire. Donc un extrait.
Long-time watcher, first-time writing, blah, 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 blah. You always say in your blog that you will show her the way, show her you are a true villain. Who is her, and does she even know that you're...
Laundry day, see you there, under things... Tumbling, wanna say, love your hair. Here I go, mumbling. With my freeze ray, I will stop the world. With my freeze ray, I will find the time to find the words to tell you how you make me feel. What's the phrase? Like a fool. Kinda sick, special needs, anyways. With my freeze ray, I will stop the pain. Not a death ray or an ice beam that salt Johnny Snow.
C'est les aléas du direct et du stream en flash, ça marche pas à tous les coups. Enfin là, c'est surtout parce que la machine est quand même. Là, je lui demande. Ce que je demande à mon petit ordi, là, c'est vraiment largement au-delà de ce qu'il peut faire.
En fait, il s'est.
Enfin, il raconte qu'il a une amourette.
Il voilà. Est victime d'un rayon freeze, ton ordi.
Voilà, oui, ben, il y a le freeze. Et surtout, comme il dit plus loin, ça n'est pas un rayon de la mort. C'est juste. Je te gèle juste le temps de trouver les mots pour te dire que je t'aime. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. JB vient d'arriver, d'ailleurs.
Bonjour.
Bonjour, JB. Donc, c'est la.
Ouvre lui son micro d'abord.
Bah oui, mais voilà, là, tu y es.
Ok, ben
voilà,
je suis.
C'est la nouvelle série de Joss Whedon et qu'il a commencé à produire. Enfin, ils ont commencé à tourner pendant la grève des scénaristes, histoire de se dire on va s'éclater, on va se faire notre propre major et on embête les autres. Et là, il y a le. Donc là, il a son second qui arrive, son âme damnée, qui s'appelle Moist. Moite. Son super pouvoir, c'est avoir les mains tellement moites qu'il peut pas ouvrir les bouteilles, qu'il peut pas ouvrir les bocaux.
Ah, c'est celui qui lui apporte son courrier, là, à un moment donné?
Oui, c'est lui, voilà. Chaque épisode dure 13 minutes et moi, ça me fait pleurer de rire. Et puis, on reprend peut-être...
Le nom de la série, rappelle
Alors, Dr. Horrible's Sing Along Blog. Puisque donc, c'est un blog dans lequel il raconte tout le reste. Le temps que JB remonte son micro pendant que je le cut, voilà.
Hop là,
zou. On peut peut-être reprendre le programme normal. Avec l'histoire du dernier Iron Fist. Iron Fist. Enfin bon, moi je suis pas très. On disait. Oui, c'est vrai qu'on disait Fist Fucking là où je bossais avant. Ed Brubaker et Matt Fraction au scénario. David Aja, qui est un jeune dessinateur qu'on découvre ici, donc c'est sorti chez Marvel, ça sort en France chez Panini Comics. Et pendant que Matt Murdock croupit en prison, le temps d'une enquête de la sécurité nationale, l'avocat s'est retrouvé à Guantanamo, pas de bol pour lui, des personnes dans le casier judiciaire douteux affirment avoir reçu une sévère avoir vu Daredevil dans des sorties nocturnes. Mais qui donc faisait l'intérim pour donner le change? Eh bien, il se trouvait que c'était Daniel Round, un jeune homme fortuné, mais surtout identité civile, Tyrone Fist. Et surtout, c'est l'ex-pote de Tony Stark qui l'a gentiment traité de Judas en lui donnant $1 d'argent, alors que ce dernier allait déclencher la Civil War, grand foutoir dans l'univers de Marvel qui allait séparer en deux tous les plus grands héros. Poursuivi par le S-H-E-I-E-L-D, comme tout super-héros renégat qui refuse de révéler son identité secrète, sa plus grande surprise sera de découvrir que le précédent Iron Fist, bourré de fautes mon texte, est toujours vivant. Orson Randall va raconter à son successeur son long combat dans l'éternité, ses ennemis tous les plus implacables les uns que les autres, mais surtout la ténacité de l'Hydra. C'est donc une enquête sur l'origine de ce personnage, plus qu'une lutte contre donc les démons de cette organisation criminelle, que va suivre Danny Rand avec son prédécesseur. Et sur les réelles raisons de ce pouvoir immense, légué dans la nuit des temps par Shu Lao. Tradition d'arts martiaux, incessante lutte, que doivent mener l'Iron Fist, honneur, tradition et futilité. Ah, bonne question. Ce personnage est arrivé dans l'univers Marvel en 1974, alors que cartonnait au cinéma la Blaxploitation et Bruce Lee. Enfin, c'était même avant que les scénaristes voient le premier Bruce Lee. Hein. Les scénaristes originels voient le premier Bruce Lee. Ils ont créé ce personnage-là. Ils se sont dit, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver.
Bah, ils avaient du retard, alors.
Un petit peu, ouais. Il a aussi la particularité d'avoir fondé les héros alloués. Des super gentils qui font ça pour le fric. Personnage opportuniste. Controversé par Provoque, Ed Brubaker et Mike Fraction ont décidé de remplir cette enveloppe un peu craze avec une réelle saga. Cette mini-série permet aussi de découvrir le dessinateur espagnol David Aja, qui se trouve être très à l'aise dans les scènes dynamiques et les clairs-obscurs. L'histoire du dernier Iron Fist, c'est donc c'est une mini-série qui était censée être une série au long cours, mais voilà, c'est pas allé très loin. Le premier tome de cette compilation vient de sortir en France chez Panini Comics. C'est publié aux États-Unis chez Marvel. Ed Brubaker, Matt Fraction et David Aja. Quelque chose à rajouter peut-être ?
Moi, j'ai le souvenir de mini-série entre Iron Fist et le Black de Harlem.
Shaft ?
Non. D'accord. Aussi, mais de toute façon, c'était dans les années 70.
C'était héros à louer. C'était héros à louer. C'est là où ils fondent justement leur groupe.
Ouais. Et comment s'appelait le Black?
Alors là, tu vois, je l'ai pas noté dans mes notes.
C'est
mais
Xavier,
il a
la mémoire des noms.
Dolly.
Dolly.
Oui.
Dory.
Oui.
Poisson rouge.
Ah oui. Fabien Vellman au scénario, Bruno Gazzotti au dessin. Ça vous dit quelque chose?
Soda?
Non, Soda, Gazzotti a repris le dessin à partir du tome 4.
D'accord.
Et ben, de toute façon, c'est dans ma chronique. Ça s'appelle Seul. Donc le troisième tome est arrivé. Est arrivé, voilà. Chez Dupuis, sorti chez Dupuis, s'appelle Le Clan du Requin. Cette série est une immense baffe, pas uniquement pour le dessin faussement gentil de Gazzotti, justement on parlait de Soda, mais aussi par les situations cocotées par Fabien Vellman, étonnamment angoissantes, pour une série qui a la destination de jeunes ados. Je rappelle qu'elle est prépubliée dans Spirou, qu'elle a été choix des lecteurs dans... Non, elle est prépubliée, excusez-moi, dans Mickey, dans le journal de Mickey. Choix des lecteurs dans le journal de Mickey, qu'elle a été, elle a obtenu l'un des TIFOV, l'un des prix justement à Angoulême, prix jeunesse, 9-12 ans. Dans ce premier tome, cinq enfants se réveillent seuls dans une immense ville, désertée de tout humain. Il a d'abord fallu qu'ils se découvrent, qu'ils trouvent un moyen de vivre par eux-mêmes et de comprendre très vite les inconvénients de cette indépendance tant voulue des adultes, mais finalement, c'était mieux avec eux. À la fin du deuxième tome, ils ont retapé un bus pour voir ce qu'il en est dans le reste du monde, et c'est dans une forêt calcinée qu'ils vont trouver d'autres enfants, seuls, tout comme eux. mais ses enfants se sont regroupés dans un parc d'attractions pour essayer de survivre. Au-delà de l'ambiance colonie de vacances, c'est une nouvelle société qui se monte. L'occasion de repartir à zéro en toute innocence. Mais peut-on compter sur la maturité de circonstances pour arriver à faire la part de ce qui fait partie des utopies et ce qui fait partie du réalisable ? L'angoisse des deux premiers tomes venait surtout des animaux revenus à l'état sauvage. On aurait pu croire qu'il en était de même pour le 3. Hélas, l'homme est un loup pour l'homme. Et le syndrome du seigneur des mouches va nous rappeler combien ces gamins... les gamins, en général, ça peut être particulièrement cruel. Cette série est une baffe immense pour tous ceux qui ont enterré trop vite la bande dessinée franco-belge pour enfants à ligne claire. Le scénariste de Yann et le dessinateur de Soda ne pouvaient que produire une série exceptionnelle. Elle nous a tenus en haleine. On attend la suite avec impatience. Ça donne même envie de s'abonner à Spirou ou au journal de Mickey, pour le coup. Seul le troisième tome donc de Fabien Vellman et de Bruno Gazzotti s'appelle Le Clan du Requin, ça vient de sortir chez Dupuis. Enfantin avec des adolescents, une merveille. On a eu son esclave personnel, oui, parce qu'elle a des tendances sadomaso. En interview fin juin, c'est Maliki.
Oui, Maliki, le personnage aux cheveux roses qui s'autodessine en fait, qui est auteur de sa propre BD et donc pour assurer les dédicaces et pour qu'on lui jette des cacahuètes à la tête, eh ben elle a besoin d'un représentant terrestre.
Des boîtes de BN.
Oui, des paquets de BN, ouais, que son esclave collectionne. Donc, il s'agit de Maliki, le tome 2, Une rose à la mer, dessiné donc par
Attention,
Maliki.
Attention, c'est un jeu de mots.
Oui, Une rose à la mer après broie la vie en rose. Ça, c'était pas un jeu de mots, c'était une référence. Alors, Souillon nous annonçait dans notre interview qu'il y aurait du changement dans le tome 2 par rapport au tome 1, puisque on lui avait un peu reproché dans le tome 1 l'absence de sommaire, un peu un aspect foutraque, un aspect, on va dire, confus dans les compos de planches. Il nous a dit de toute façon que ça allait être remis dans le 2, qu'il y aurait un vrai sommaire pour qu'on comprenne un peu d'où venaient certains personnages. Il faut savoir que, par exemple, le personnage de Savage Lady Bird, il avait pas pu le placer dans le 1 puisqu'il aurait fallu qu'il refasse des planches pour la présenter. Il a aussi dit qu'il y aurait d'autres changements, qu'il y aurait les mots de la semaine qui accompagnaient les strips. Bon, ça, s'y est pas tenu puisqu'il aurait fallu un nombre de pages assez incalculable pour les ajouter. Bon, ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, il y a des fanarts de ses collègues graphistes chez Ankama. Il y a donc évidemment la version classique et la version collector. Donc la version classique hormis le changement de couverture, eh ben il y a un aqualbum à la fin, puisque ce sont des aquarelles spécialement faites pour cette édition qui sont vraiment superbes. On a aussi un tutoriel comment dessiner les strips et nous avons un concours de fanart qui était ouvert à tous les dessinateurs fans de Maliki sur le net. Nous avons d'ailleurs l'agréable surprise de voir un de nos habitués de cette émission qui est dedans. Donc JB va certainement reconnaître le style, alors on va lui trouver la page.
On le félicite quand même.
Oui, on félicite la personne sélectionnée en quatrième position. Alors on va retrouver... Voilà.
Tu dis si tu reconnais.
Oui, effectivement. Je vois quelqu'un que nous connaissons très très bien qui est dans le fan art et c'est le meilleur dessin de la page d'ailleurs.
Voilà, et il y a aussi la version.
Donc c'est Nils, hein, pour ceux qui ne voient pas, qui n'ont pas le bouquin sous la main, forcément. Voilà.
Et il y a aussi un ex-libris dedans.
Oui, parce qu'il a l'édition collector, le Thomas, il s'est précipité dessus.
La version collector comporte un ex-libris exclusif qu'on ne peut pas trouver ailleurs, et avec la version numérotée en bas.
Voilà. Mince alors.
Vous, tu l'as acheté pour Sabrina au départ. Tellement qu'il est beau, qu'il est rose et qu'il y a des chats.
Ouais, mais c'est un peu plus compliqué que ça, on vous expliquera hors antenne. Alors, donc par contre, ce qui est vachement bien aussi, c'est que donc Souillon nous disait que il devait faire un peu plus attention à la composition de ses BD, puisque en fait, comme il compose dans la verticalité pour un usage pour le web, il ne fonctionne pas du tout au niveau des ratios à 4. Et c'est vrai qu'il s'en est aperçu sur le tome 1. En fait, ça, c'est vrai que les compos avaient l'air un peu de flotter, il avait dû élaguer pas mal et tout. Et puis il se forçait justement à composer ses strips dans des formats A4. Il nous disait quand même, bon, sur certains, il avait un peu la flemme, donc il se disait, ça va me faire du boulot, surtout pour la sortie du bouquin, donc je fais un peu moins attention. Mais on voit quand même que les compos sont beaucoup plus carrés, que ça ressemble beaucoup plus à un vrai album plutôt qu'un un bonus par rapport au blog. Et ça c'est pas mal. En plus, voilà, donc j'en parlais tout à l'heure du sommaire, donc c'est découpé en petites parties, donc il y a d'abord l'innocence, donc ce sont des anecdotes d'enfance, le dur apprentissage de la vie au détriment des animaux ou à cause d'eux. On a l'amour fraternel entre les deux chats, Féanor et Feia, pour les adeptes de Chacromagnon. On a Savage Lady Bird, donc la présentation, et je le soupçonne justement à Souillon d'avoir refait les planches pour la présenter, puisque ça correspond beaucoup plus à son style actuel, plutôt que le style qu'il avait il y a quelques années. On a aussi les énervements de la vie quotidienne, où on voit dans un fameux strip où il est à la poste. Il a appelé le strip d'ailleurs post-mortem, avec qui se finit sur une citation de Desproges: le manque d'élégance est parfois indispensable à la crédibilité de l'insulte.
Oui, c'est largement plus fort que celui de Boulet d'ailleurs. Hein,
oui, oui, bah, oui, là on la voit s'énerver devant un fonctionnaire avec du kamehameha dans la tronche, c'est assez jouissif, on va dire. Donc en tout cas, pour ceux qui ont acheté.
Tu vois, Thomas, toi aussi t'es de droite.
Oui, pour ceux qui ont acheté le premier tome et qui avaient été un chouïa déçu, vous pouvez vous précipiter sur celui-là et toutes les erreurs ont été corrigées. Ce qu'on pouvait reprocher au tome 1 ne vaut plus dans celui-là. On voit que le tir a été un peu revu et tout. C'est vraiment du bon boulot avec un superbe objet au niveau de la version collector. De toute façon, la version classique un peu moins chère et d'excellente facture aussi. Donc c'est quand même du lourd, du carré, pour les adeptes encore une fois des chats, puisqu'ils sont très 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 présents. Et comme disait Souillon, de toute façon le kawaii ça cartonne, hein, c'est 50% d'internet les chats.
Non, hein. Ouais, exactement, ouais. Donc, toi t'as pris des notes sur mon billet d'hier?
Bah non, c'est moi qui retranscris l'interview.
Ah merde.
Alors le tome 2 de Maliki, dessiné par Maliki, une rose à la mer chez Ankama.
Voilà, et l'interview est donc disponible en transcription écrite sur ActuaBD, mais on vous recommande de réécouter le supplément week-end du 28 juin dernier, parce que c'était franchement beaucoup plus drôle. Midi 34 minutes et 30 secondes. Après, non mais là il y a la régie qui s'excite, hein, et ils me disent que, écoute Xavier, tu es bien gentil, s'excite. Mais bah oui, ils vont finir par nous couper pour passer la pub.
Ouais,
hein.
Surtout n'écoutez pas du sport, il dit que des méchancetés.
Cercueil. Cercueil, la seconde capsule du label Brasseuse vient de sortir. Un joli 33 tours vert. Cercueil, c'est un duo de Lille, c'est du trip-hop. Leur album s'appelle Ghost Got Toasted, un album 10 titres avec en guest DJ Donna Summer et les japonais de Satanic Porno Cult Shop.
If I could sit with somebody. Schubert.
Ma foi, c'est l'heure. Et qui dit que c'est l'heure dit que on éteint les lumières et on monte le petit les petits rideaux et zou. Je sais, c'est litigieux, mais quand même.
We are on the low.
Cinéma présenté par Maître Ultimatum.
Merci. Alors JB demande, c'est pour quel film? Alors c'est un jingle HK. C'est pour, on reste dans les animaux kawaii. Kung Fu Panda.
Ah, je l'ai vu.
Ah, tu l'as vu? Ah,
Il y a Jung Yu-Fat dans Kung Fu Panda?
Non, mais c'est.
C'est un générique.
D'accord.
Mais c'est
mettre dans l'ambiance, tu vois. Ah, c'est okay. Comme on fait de la radio, que c'est pas très visuel, comme on peut pas mettre les jingles vidéo ou les titrages, tu sais, les OSD et tout le reste, ben, on est obligé de faire un habillage sonore.
Ah, d'accord. Donc, en plus, comme il y a du Kung Fu dedans, on s'est dit, ça s'explique. Donc, c'est un film des studios DreamWorks, réalisé par Mark Osborne et John Stevenson. Avec les voix en français de... Ouais, je suis obligé de le faire parce que bon... les voix en français de Manu Payet, Pierre Arditi, Marc Gillin, Marc Lavoine. Marc Lavoine dans le rôle du méchant, c'est assez pas mal. Et en VO, donc forcément, c'est un peu plus du lourd. Donc Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Lucy Liu, Michael Clarke Duncan. Bon, ça va. La musique, je serai jamais à court d'éloges sur ce mec. Donc c'est Hans Zimmer. Certainement le plus grand compositeur en activité qui a collaboré. Oui ?
Non.
Ah bon, d'accord. Et qui a collaboré avec John Powell, l'auteur de la BO de The Bond Trilogy. Donc voilà, hein, c'est quand même.
Oui, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît.
Voilà, du costaud.
S'il vous plaît, quoi.
Et ça raconte l'histoire suivante. Afin de repousser le redoutable Tai Lung.
Attends, je vais mettre un effet sur ta voix parce que tu manques de couilles quand même. Hein.
Afin de repousser le redoutable Tai Lung, dont le vieux maître du temple prévoit l'évasion de sa prison. Je m'entends parler, c'est affreux. Les moines doivent nommer le légendaire guerrier dragon seul propriétaire légitime d'un rouleau de parchemin, dévoilant une boîte secrète des arts martiaux. Mais à la surprise générale, le très vénérable désigne un panda vendeur de nouilles.
Donc là, c'est tout le monde est abattu, mais qu'est-ce qui... C'est un vieux gâteux, qu'est-ce qui nous a fait... Alors ce film, c'est une grosse surprise, même pour les amateurs de Kung Fu que nous sommes, puisque c'est un véritable véritable festival de trouvailles. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup comparé Pixar à DreamWorks. Bon, DreamWorks, ils sont encore un peu en deçà de Pixar, mais ça se rapproche, parce que justement, pour une fois, ils délaissent un peu leur côté clin d'œil parodique, comme on pouvait le reprocher dans Shrek par exemple, puisque Shrek, ça surfe sur les succès cinéma des deux années précédentes chaque épisode.
Ou Ants. Ants aussi était énormément.
Oui. Ants aussi, effectivement.
Un peu à l'overdose, surtout qu'il y avait mille et une pattes juste avant.
Oui, on va dire qu'ils sont un peu fait écraser par mille et une pattes aussi. bon, là, évidemment, il y a aussi des références, mais elles sont beaucoup plus subtiles. Et puis surtout, c'est une branche du cinéma, le kung-fu, que peut-être pas tout le monde, enfin beaucoup moins de monde a vu que les films auxquels Shrek ou Hans se référaient. Et c'est vrai que si vous n'avez jamais vu de film de kung-fu de votre vie, ben vous pouvez tout à fait savourer Kung-Fu Panda, puisque de toute façon, ça reprend un peu les images d'Épinal de certains films de kung-fu, mais pas du tout dans le côté péjoratif. C'est-à-dire que tu vas pas avoir de bullet time, tu vas pas avoir de personnages qui marchent sur les murs comme Thierry Dragon, ça c'est vachement bien, puisque bon, ça a été un peu vu et revu dans les pubs pour des Esquimaux au cinéma et tout, là tu t'en peux plus quoi. Et là par contre, on a des putains de chorégraphies, mais vraiment à faire pâlir d'envie les grands chorégraphes de Hong Kong. Alors on a par exemple des références à la 36e chambre de Shaolin, puisqu'on va voir qu'il y a un apprentissage assez savoureux du kung-fu par des moyens détournés, justement grâce à des boulettes à la vapeur, mais bon, j'en dis pas plus. Voilà, donc on a des combats super bien foutus, on a l'évasion de la prison du méchant qui est un truc mais vraiment épique. Tu te dis, oh là, bah ouais, putain, dans un film d'animation en 3D, voilà, ils se sont fait plaisir. Puis au niveau baston, putain, ça le fait. t'as les combats sont vachement bien, t'as un hommage certainement à la rage du tigre dans un cours d'un pont suspendu qui est vraiment super bien aussi, puis le fait qu'ils utilisent des animaux, qu'ils utilisent des bottes secrètes ou des capacités que les humains n'ont pas, justement ils se sont fait aussi plaisir en transformant justement les sempiternels combats de kung-fu justement avec des animaux. C'est un pied de nez assez rigolo, puisqu'il faut savoir que aussi dans les films de Jackie Chan par exemple, ils utilisaient la technique du singe alcoolo ou des trucs comme ça, bon, avec la pointe de la vipère et tout.
Oui, mais ben, voilà quoi. C'est quelque chose qu'on ne montre pas à des enfants, hein, un combattant bourré.
Oui, mais bourré, ouais, rigolo, hein. C'est pas bourré qui tabasse sa femme, c'est quand même Jackie Chan, donc c'est je suis bourré, je sais pas marcher droit, c'est oh là là, j'ai les joues rouges, bon c'est quand même du cartoon quand même. Et donc franchement, en plus les personnages sont vachement bien, t'as le panda, bon évidemment, t'as un panda dans un film, tu peux que l'adorer, en plus il y a une bonne bouille, voilà. On aurait pu croire que tout était misé sur le panda, mais pas du tout, puisque son vieux maître aussi, il est un peu irascible, tu sais, c'est un vieux, une vieille tête de con, bon, il est assez rigolo aussi. T'as le vieux moine tortue qui va le désigner comme le guerrier dragon, il est assez sympa aussi. Alors, par contre, on va regretter un peu, puisqu'il y a les cinq guerriers animaux qu'on voit dans la bande-annonce, c'est un peu mis au troisième plan, bon ça c'est un peu dommage, mais à part ça, bon, il aurait fallu faire un film de 3 heures. Et après, la dernière qualité du film, c'est qu'il y a une putain de séquence d'intro en animation 2D, même technique qui est utilisée pour le générique de clôture. Alors rien que ça vaut le visionnage du film, parce que c'est au niveau du rendu, au niveau de la pêche que ça a, c'est vraiment aussi bien que la partie 3D, surtout que au point où tu es presque déçu de revenir à la 3D après. Ah mais non, en fait nous le film comme ça, c'est bon, voilà. Kung Fu Panda, c'est une excellente surprise. JB, tu nous as dit que tu étais allé le voir. Qu'en as-tu pensé ?
J'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, le scénario un peu classique, ouais. Mais visuellement correct. Après, moi, j'attends beaucoup plus de Wall-E qui sort dans 15 jours.
Ouais, bon, ça, c'est pas la même catégorie non plus. Hein.
Et puis, tout à fait, c'est du Pixar, rien que ça. Et on a vu la bande-annonce juste avant le
Kung Fu Panda.
Le Kung Fu Panda. Là, en bande-annonce, on était éclatés.
Wally.
On vous en reparlera.
Voilà, donc Kung Fu Panda, film des studios DreamWorks qui est encore à l'affiche.
On reste dans le cinéma, s'il vous plaît. Du sport, qu'est-ce que tu as sous la main?
Ah oui, oui.
Oh punaise, mais plus, je fais les signes et tout.
Oui, je me disais, il prépare un gag à mon insu, je sais pas ce que c'est.
Non. C'est dans le dernier numéro de Comic Box, dont je vous ferai le sommaire complet un petit peu plus tard. Mais par contre, ça concerne quand même les films Marvel avec un crédible Hulk à l'affiche.
Dans une semaine, mercredi prochain, je crois.
Le 30, ouais, c'est ça.
T'as du pain sur la planche, là.
Le 30.
Dans deux semaines, en même temps que.
Ouais, ouais.
En rivalité. Et
bah, ceci dit, vu comment il se fait traiter par certains critiques.
Alors.
On peut se poser des questions.
On jugera sur
pièce.
On verra. Ouais. Qui vivra verra.
On jugera sur pièce. Il faut savoir que Marvel, pour développer justement cette branche ciné, hein, qu'il avait assez glorieusement entamé avec sa collaboration avec Fox à l'occasion de la sortie des premiers X-Men. Hein, on va laisser tomber le dernier, mais bon, les deux premiers, ça le fait quand même. Marvel a bien décidé de créer son propre studio de cinéma, hein, pour justement ne plus avoir affaire à ces connards de la Fox. Hein. Bon, ça c'est, je le mets pas dans la bouche.
Et puis
de
surtout qu'on gagne pas assez.
Ouais, ça gagne pas assez.
C'est surtout
donc,
ça, oui.
Et donc Marvel, maison d'édition de comics, a fait un emprunt monstrueux à la banque, 520 millions de dollars, énorme.
Alors que c'était le montant, ils avaient une dette fabuleuse à la fin des années 90, tout le monde se demandait s'ils allaient survivre.
Et là, bon bah ok, les banques, allez, c'est bon, allez-y, tranquille
ça
et tout.
Ça marche, allez.
Et bon, bah Marvel se dit, bon bah maintenant on va pouvoir produire nos propres films, on a déjà vu ce que ça a donné avec Iron Man, qui est le premier, hein, Marvel Studio, hein, mais Marvel Studio, bah, ça va être autre chose durant les années qui vont venir. Alors déjà,
ouais, ça Iron changera Man, de la série télé qu'ils ont faite.
Déjà pour Iron Man, ça s'annonce vachement bien, parce que bon, ben, le Iron Man numéro 2 est pratiquement déjà en route. avec le même réalisateur qui lui dit ouais, ah, là, oui. J'ai déjà tout prêt.
j'ai même fait la suite là, je l'ai produit là.
Le crew au complet est pratiquement d'accord pour remettre ça sans problème. Mais par contre, il y a également d'autres super-héros qu'on attend. Hein. Oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors Iron Man 2, ben, en principe, il sera prévu pour avril 2010. Hein, c'est-à-dire qu'il faudra patienter
putain,
deux ans.
Putain,
deux ans. Mais par contre, il y en aura d'autres. On sait que l'année prochaine, il n'y en aura qu'un qui sortira officiellement, c'est Wolverine. Mais Wolverine n'est pas un Snick. Film, n'est pas Snick. Un film Marvel, Snick. C'est un film encore coproduit avec la Fox. Hein, donc, un petit peu de côté. Mais par contre, on nous annonce Thor.
Oui.
Ah oui, en juin 2010 également, mais surtout, alors là, tout le monde qui tombe le cul par terre et tout, il se dit ouais, non, c'est pas possible, ils ont pas, c'est pas possible de pouvoir faire ça. Captain America, ouais. Captain America,
après Bush, ça va être saignant. Hein.
Ouais, avec ça, l'habitude ça... qu'ils ont non, prise, non. Avec l'habitude qu'ils ont prise de mettre dans les génériques de fin et les post-génériques de fin. Des petites accroches comme ça, dans le style attends, tu vas voir la suite, attends, il va y avoir quelque chose d'autre. Dans la suite, eh bien, The Avengers. Alors là, ça va péter le feu.
Non,
parce
là,
que,
je suis beaucoup moins intéressé.
Ça va être l'ensemble de l'équipe originelle de Avengers. Hein,
mais ils sont 280, il y a Spider-Man, les 4 Fantastiques.
Non, les Vengeurs, les premiers, c'est-à-dire avec Hulk, justement, hein, qui n'a pas duré longtemps, hein, on va pas remettre l'histoire sur le tapis, Thor, Ant-Man, la Guêpe, Captain America, et bien entendu Tony Stark, c'est-à-dire Iron Man. Et là, ça sera pas avant 2011.
Bien sûr, avec les mêmes acteurs qui ont interprété leur héros respectifs dans leur...
Pas forcément, hein, parce que pour l'instant, là où le bas blesse, eh bien, c'est que toujours les mêmes méandres de pré-production, qui c'est qui va réaliser, celui-là il est pas mal et tout, et puis au bout de 6 mois, ah ben non, casse-toi, t'es con, t'as rien pigé, laisse tomber.
Et surtout, tel acteur n'est plus disponible, même s'il va falloir le remplacer.
Pour Thor, actuellement, il y avait une info comme quoi ils étaient pour parler avec Brad Pitt, par exemple. Donc bon. Tout peut changer d'ici là, on ne sait pas.
Ouais, de toute façon, il faut savoir que le Comic-Con de San Diego, c'est-à-dire
plus gros festival d'amateurs de comics,
Japan Expo puissance 10.
j'allais la sortir.
Puissance 10.
J'attendais de couper.
Qui se passe aux États-Unis, un truc monstrueux. Là, bien Marvel va faire ses annonces officielles en ce qui concerne ses différentes sorties de Marvel Studios.
Coupure musicale, ouf, c'est pas trop tôt, 12h48 sur la poubelle des radios. JB nous a amené dans le sac versus Krobius Pip, So Shall Always Kill.
Fou shall not kill.
Non, always.
Fou shall always kill. Bon, on va retourner.
Just a band, Crass, Just a band, minor threat. Just a band, the Cure. Just a band, the Smiths. Just a band, Nirvana. Just a band, the Pixies. Just a band, Oasis. Just a band, Radiohead. Just a band, Block Party. Just a band, the Arctic Monkeys. Just a band, the next big thing. Just a band, that should give equal rights to tragedies that occur in non-English speaking countries as to those that occur in English speaking countries. Let's remember the guns, bitches and bling were never part of the four elements and never will be. That should not make repetitive generic music. That should not make repetitive generic music. That should not make repetitive generic music. Should not make repetitive generic music. That shall not be my ride. That should not scream if you want to go faster. That should not move to the sound of the wickedness. That should not make some noise for Detroit. When I say hey, that should not say ho. When I say him, that should not say ho. When I say he, say she, say we, say make some noise. Kill me. Why have we bothered re-recording this vocal? That should not wish your girlfriend was a freak like me. That should spell the word Phoenix, P-H-E-O-N-X, not P-H-O-E-N-X. Regardless of the Oxford English Dictionary tells you. That should not express your shock at the fact that Sharon got with Brad at the club last night by saying, is it? Thou shalt think for yourselves. And most importantly of all, thou shalt always... Thou shalt always kill.
Après avoir parlé des crossovers de super-héros et des bandes... Oui, j'adore vous couper les
bandes. On a failli te prier en flag.
On parlait de lesbiennes en sous-vêtements.
Bon, d'accord. Ça n'engage que vous.
Jennifer Tilly.
D'accord.
Non, Carla Gugino, puisque juste avant que du sport ne parle de comic box, tu voulais peut-être désannoncer le morceau, non?
Oui, quand
dans
même.
Dans Dan Le Sac versus Scoobius Pip, c'était fou Charles Always Kill, si je m'en souviens bien. C'était dans la compil des orgues de la semaine dernière. Vérifiez si c'est encore dans les bacs du libraire.
Et puis repassez-vous le podcast pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Sur le net pour écouter ce qu'ils se disent et pourquoi je parlais de crossover. Voilà. Duce.
Oui, alors juste avant, j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais c'est une info qui est quand même assez énorme. C'est que le premier trailer officiel, et pas teaser, le trailer de Watchmen, oui. Le film qui sortira...
Ça a l'air à chier.
Non, le film qui sortira en 2009, le trailer, franchement, envoie du pâté, tabasse sa mère. Et
c'est que du côté visuel, alors que je crains oui, le scénario.
Mais c'est une bande-annonce.
Mais tu connais le bouquin, tu l'as vu, tu l'as à la maison, c'est un meilleur bouquin qui puisse exister en commun.
C'est ça qui m'inquiète, mais je l'ai même chroniqué à TLT, c'est dire combien j'aime ce bouquin.
C'est juste pour faire son chieur. Alors, ouais. On a le trailer qui est disponible sur le site d'Apple, apple.com/trailer.
Je dis ça, mais en aparté, c'est vrai que j'adore Hellboy, pourtant les films, moi je suis pas fan. Bon, bref. Donc, on vient au trailer de chez Apple, sur le site d'Apple.
Sur Watchmen, il y a aussi le site officiel de Watchmen qui est dispo.
Watchmenthemovie.com.
Non, Watchmenmovie.com.
Oui.
Voilà.
.com.
Oui, voilà. Donc on a au casting donc Billy Crudup dans le... bon, peut-être que ça se prononce pas comme ça. Donc dans le rôle de Dr Manhattan, on a Pierre Laguigino dans le rôle de Sally Jupiter. Voilà, c'est les noms que j'ai retenus pour l'instant. Donc évidemment le trailer, contrairement à Xavier, moi je trouve que c'est un bon mélange entre côté un peu old school avec justement on a le vaisseau qui est assez old school aussi, on dirait un vaisseau tiré de Jules Verne, enfin tiré de la BD, hein, voilà, de BD sortie en 86-87. C'est vrai que là je me suis replongé un peu dans la BD hier en lisant Diagonale pour voir un peu s'ils avaient été fidèles ou non. Avec le recul, le visuel, quoi qu'on dise sur la BD, qui est le plus grand graphic novel jamais fait, qui a été multi-récompensé, considéré comme truc en béton armé et tout.
Largement. C'est une bible en comics. Et je vous conseille vivement de regarder le trailer et aussi d'aller carrément acheter la BD, les yeux fermés, où vous verrez, vous prenez une grosse claque.
Voilà. Par contre, le visuel, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a tout chouïa daté quand même.
C'est très années 80, effectivement.
Mais c'était voulu, c'était le style graphique qui était voulu, justement.
Voilà. Alors, quand tu dis, bon, Watchmen va être adapté au cinéma, bon, alors, il faut savoir qu'il y a le hibou, il y a des...
Rorschach, vous avez...
Bon, Rorschach, il passe bien, mais le... Enfin, ouais. Tu vois, un mec déguisé en hibou avec des... Les, voilà, comment on peut faire ça aujourd'hui au cinéma? Ben, ça passe super bien. Ils l'ont un peu réactualisé avec un look...
Attends, je rappelle que quand même, l'idée, c'était de réinventer tous les héros en reprenant des travers de héros connus. Un peu comme justement ce dont je parlais tout à l'heure avec Astro City. Et de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Et là où la BD se mérite d'être lue, c'est qu'il y a des extraits d'une autobiographie et elle fait mal.
La BD est connue surtout pour avoir 15 niveaux de lecture. Plus tu la lis, plus tu vois des trucs.
Des références, des trucs comme ça.
Voilà. Je disais, on en parlait tout à l'heure en off, Dr Manhattan, on pouvait avoir peur, surtout après les cartes fantastiques et le surfeur d'argent, ce qu'on pouvait donner comme bout pour un personnage qui est quand même assez atypique. Là, tu vois Dr Manhattan dans le trailer, tu pleures pas, tu applaudis les deux mains et tu dis oh là là, j'ai envie d'avoir une heure et demie avec ce personnage. Rorschach, égal à lui-même. De toute façon, c'est quasiment impossible de louper Rorschach. Hein. Carla Gugino en tenue moulante. Bon, là, tu... Ah, ouh, voilà. Voilà. Le trailer qui se laisse fortement apprécier. Et puis, vous tapez de toute façon trailer Watchmen sur Google. Vous y atterrissez de toute façon.
Du sport reprend leur vue de presse.
Ouais, avec le comic box de juillet-août, hein, c'est toujours un bimestriel, avec quand même du lourd, ça commence, actualité oblige, Dark Knight, ça sort le 13 août au cinéma. Dark Knight, c'est la deuxième mouture de la nouvelle série Batman avec Christopher Nolan aux commandes et Christian Bale dans le rôle titre.
Mais rappelons-le qu'il n'a rien à voir avec le Dark Knight de Frank Miller. Hein.
Non. Ça commence avec l'historique du Joker, justement. Qui c'est qui a découvert le Joker? Il y a deux articles d'ailleurs qui parlent un petit peu du Joker. Celui qui fait un petit peu l'historique.
Il y a une controverse entre deux possibles créations et.
Trois.
mais je sais qu'il y a eu au moins deux procès quand même dans l'affaire.
Ouais, la plus simple, de toute façon, c'est qu'il a été inventé par Bob Kane, Billy Finger et Jerry Robinson. Bob Kane est le créateur officiel de Batman et les autres n'étaient jamais crédités au départ parce que c'était soi-disant les secondes mains, les nègres qui officiaient, qui faisaient les dessins ou qui aidaient à faire les scénarios, et parce que Bob Kane pouvait pas tout faire tout seul, toute façon, mais à l'époque ils n'en avaient rien à taper de créditer les différents créateurs. Et donc il y a différentes versions qui vont circuler selon l'un ou l'autre quant à la création du Joker, quant à la création du visuel. Et en fait, moi, celle qui me plaît le plus quand même, c'est cette petite photo que tu vois là, qui représente l'acteur de cinéma muet Conrad Veidt.
Qui avait un sourire immense, non ?
Ouais. Et dans un film muet je sais plus qui, des années 26 ou 27, dans lequel il interprète l'homme qui rit. Tu sais, la nouvelle de Victor Hugo, le mec qui a les joues tranchées comme ça, quoi, qui donne ce sourire un petit peu machiavélique, mais plus prosaïquement, en fait, ça vient tout simplement du fait qu'ils aient cherché un héros et avec un jeu de cartes, ils ont trouvé que le Joker c'était intéressant et tout. C'est toujours le mec qui déconne un petit peu. Et d'ailleurs, troisième article.
Ils sont sérieux.
Donc, il y a l'article sur le Joker et sur son histoire et son rapport avec Batman. ses différents rapports avec Batman, hein, qui sont très très ambigus, on va dire, hein, on y parle même de sexe, Je vous laisse deviner un petit peu de quel sexe il s'agit. Jerry Robinson, donc, est en interview également dans Comic Box, donc Jerry Robinson, créateur de Joker, d'autres personnages, hein, bien entendu, dans la saga Batman. Mais il y a également Martin Winkler qui s'invite décidément partout et qui, dans les Winkler Files, eh bien, nous propose, eh bien, une relecture du Joker à travers ce que nous, étant en France, connaissons depuis le Moyen-Âge, puisque le Joker, c'était le bouffon, hein, le bouffon du roi, hein, qui a été en activité jusqu'à la période Louis XIV. Hein,
maintenant, il s'appelle Fillon.
Voilà, ouais, bon, bah, donc, très, très intéressant. Ensuite, eh bien, on a un petit historique sur Hercule. Hein, Hercule, qui est également un des personnages de la mythologie Marvel, et qui revient, d'ailleurs, hein, dans Les Nouveaux Vengeurs, scénarisé par Bendis. Bendis qui se fait une spécialité, d'ailleurs, de toujours mettre Hercule dans tous les comics qu'il a scénarisé.
Hercule, il est dans Saint Seiya aussi.
Ouais, ben bon.
Putain, il a placé.
Au niveau des autres interviews très intéressantes, Lionel Yu, qui est un dessinateur philippin, hein, qui est le dessinateur qui a fait le plus d'épisodes sur les Nouveaux Vengeurs justement, mais également Secret Invasion. On a Mac Texera qui lui dessine Wolverine, Ghost Rider, Punisher, Moon Knight, Black Panther, Vampirella, ouais, et beaucoup d'autres. L'interview, alors au départ, je me suis dit, bon, ils sont plantés, il y a un truc qui déconne, parce qu'en même temps, c'est en couverture, tu vois, quoi, tu vois carrément Obélix et Astérix. L'interview de Uderzo, parce qu'il faut savoir que Uderzo, qui connaissait son pot de Goscinny depuis les années, depuis la fin de la guerre, hein,
depuis l'arrivée de Goscinny à Paris, c'était en 48-49.
Eh bien, Uderzo avait dessiné une histoire de super-héros, avec plus ou moins pas traduit, hein, parce que on n'avait pas adapté la bande dessinée américaine, mais avait recréé un petit peu le personnage de Capitaine Marvel Junior dans les années 50. Alors que Goscinny, lui, a quand même passé un certain temps aux États-Unis. Il a passé, je crois, un an et demi aux États-Unis à New York. Et c'est là qu'il a rencontré d'ailleurs Wallace Wood, Will Elder et tout. Les gens qui allaient fonder plus tard la revue Mad. Il y a la bande dessinée inédite What If. C'est un What If, hein, c'est-à-dire et si ça s'était produit différemment et tout, qui parle d'annihilation. Là, c'est pas mal parce qu'on voit apparaître un super-héros qu'on n'avait pas vu depuis des décennies, on peut le dire, Nova, qui revient, et c'est lui qui pratiquement va sauver le monde, va sauver la planète Terre et tout, quoi. Alors c'est bien parce qu'il arrive sur Terre et tout, il voit qu'ils sont en train de se péter la gueule, ça se passe pendant Civil War et tout, avec les héros qui sont pro-gouvernement, les autres super-héros qui sont contre.
Non, je ne donnerai pas mon numéro de sécurité sociale.
Contre le recensement, non, je me démasquerai pas, allez vous faire... Il y a donc l'interview avec Jerry Robinson, ça c'est de la balle, et l'interview avec Grant Morrison. Bon, hein, rien à dire. Ainsi que Dave McKean. Dave McKean qui, lui, est vraiment un graphiste un petit peu à part. Parce que...
un petit peu.
Parce que... Non, en ce qui concerne les comics...
Couchez. Rentre cette langue.
Parce que, en ce qui concerne les comics, il a pas fait tellement de dessins dans les comics. Arkham Asylum est le plus connu. Mais sinon, lui, il est surtout connu pour ses graphiques nouvelles. Ils sont un petit peu...
Je crois que JP secoue sauvagement son doigt.
Je suis pas d'accord.
Alors vas-y.
Maître du sport, vous avez tort.
Bon, on a la Wikipédia.
Oui, il a également tort.
Non, vous avez Cages, qui est une grosse œuvre de McKean.
Oui, mais là, qui est dans un univers complètement indépendant.
Oui, c'est un univers indépendant. Hein. Moi, je parle surtout des deux grosses boîtes, DC et Marvel.
Ah, mais il est quasiment tout le temps en indépendant. De toute façon, il a travaillé quasiment tout le temps pour Vertigo, la sous-boîte de DC, Indie. Avec évidemment surtout les couvertures de Sandman, entre autres.
Sandman, Mr. Punch, il a fait Mirror Mask, Villain Case, Les Loups dans le Mur, Échographique, pas mal de choses. Puis moi, c'est vrai qu'il a un dessin un petit peu. Moi ça me plaît bien, quoi. Vraiment, ça me plaît.
Si tu veux, je t'en passe parce que
je vais vous halluciner, mais il a fait les pochettes de disques d'albums de Tori Amos, Alice Cooper, Dream Theater, Paradise Lost, Fear Factory, pardon, Frontline Assembly. Putain, c'était lui.
Oui, c'était lui. De toute façon, c'est tout simple.
Et Machine Head.
Il ressemble, il y a lui et Sienkiewicz qui font à peu près le même dessin, mélange de photographie et plein d'autres.
Photographie, peinture à l'huile, aquarelle. Il mélange vraiment énormément de styles différents.
D'ailleurs,
on reconnaît.
Tu parlais de Mirror Mask. Mirror Mask, ce n'est pas un bouquin au départ, c'est un film qu'il a entièrement fait. avec un scénario de Gaiman. Gaiman qui est un des mecs les plus connus actuellement.
Un des collaborateurs réguliers de Neil Gaiman.
Ben, de toute façon, c'est Gaiman qui l'appelle tout le temps. Il me dit ah, j'ai besoin de couverture, ah, j'ai besoin de ceci, tiens, à boule, quoi. Et Mirror Mask et n'est juste que des extraits du film qui est produit par la BBC, qui ressemble en. On dirait une sorte de téléfilm, mais qui, en fin de compte, du moment qu'on arrive dans le monde onirique de McKean, qui vraiment toute le panaché de tout ce qu'a fait McKean depuis les débuts, tu te régales. Voilà.
C'est sorti en DVD en France il y a 2 ans à peu près.
Oui.
Alors, outre les entretiens, il y a bien entendu les articles de fond qui sont assez sympathiques. J'ai parlé de Joker, j'ai parlé de Hercule, mais il y a également un article sur les mariages de super-héros. Alors, ça, c'est rigolo et tout. Il y a également un article sur les héros oubliés. Et là, on nous parle des terroristes, des super-héros qui, comme d'habitude, ont été spoliés, ont été trompés par le gouvernement et donc se retournent contre lui parce que le gouvernement est à la solde des multinationales qui sont en train de bousiller notre planète Terre. Et donc, ce sont des écolos avant l'heure parce que c'est quand même une bande dessinée qui est sortie au début des années 90. On ne parlait pas de la couche d'ozone encore,
pas aux États-Unis.
Non, mais bon, tu parles, laisse tomber, quoi.
C'est quoi, des éco-terroristes, comment on dit ?
Des éco-terroristes, tout à fait. Il y a également un article sur Wanted. Ah, alors là, bon, bah, ok, hein, on va laisser tomber le film. L'historique également complet de Thor, bien entendu, puisque Thor est de retour dans les pages de Marvel Heroes sous la plume d'Olivier Coipel. Cocorico. Et d'après le scénario de Straczynski, Thor, un Asgardien dans la ville. Ouais, oh, elle est bonne. Tout ça dans le comic box, donc.
C'est beau, un Asgardien. Son of Shaft.
Oh!
Non? Hein? On dirait du Michael Mann là.
Ah, mais tu connais pas? Sérieux?
À force de l'entendre, j'oublie moi.
Ah, c'est urgence!
Ah, mais je regarde pas la télé!
Menteur!
Aïe. Emergency Room, urgence, et France 2 a l'excellente initiative, du moins à mon avis, de faire de la contre-programmation. On sait que généralement, pendant les vacances, pendant les 2 mois de juillet et d'août, on ne sort jamais sur les chaînes publiques hertziennes ou de la TNT de gros blockbusters qui vont ramener des foules et qui vont faire surtout de l'audience et de la part de MediaMath.
Oh si, quand même, ils ressortent les gendarmes.
En duo avec un Pierre Richard de la même soirée. Attention.
Ouais.
Ça c'est de la série télé
très
de qualité.
Très grand, ouais, très grand d'ailleurs. Super. Et bien France 2 a décidé de nous sortir de l'inédit avec la 14e et avant-dernière saison de Emergency Room, alias Urgence en français. Ça se passera vendredi prochain à partir de 20h50. Où en est-on resté à la fin de la saison 13? Eh bien déjà, Parminder Nagra, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a disparu, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Le Tony, interprété par John Stamos, se demande ce qui s'est passé et tout. Parce que rappelez-vous, le mariage et tout, et surtout les révélations concernant les relations qu'il y avait entre John Stamos et Parminder Nagra. Mince alors, que lui est-il arrivé? On le saura dans le premier épisode de la 14e saison. Alors, on peut dire que c'est une série qui a connu des hauts et des bas, surtout en termes d'audience, mais également de temps en temps au niveau scénaristique. Mais c'est quand même une série qui, on est à sa 14e saison, et on sait que généralement les séries qui durent très très longtemps doivent leur pérennité au fait que les personnages principaux, les héros de séries, eh bien, sont des gens qui vont marquer le téléspectateur, les téléspectatrices. Alors que dans Urgence, c'est pas trop le cas. Urgence avait vraiment cassé la baraque au début. Pourquoi ? Parce qu'on avait découvert, pour certains, un certain George Clooney, qui, durant les 2 premières saisons, avait quand même fait beaucoup pour la renommée de cette série. Mais à partir du moment où George Clooney se barrait et tout, quoi, parce que il allait en Californie, parce que tu vois, le soleil est plus chaud là-bas et tout. Enfin bon, tu parles.
Elle est tournée en Californie, cette série. Elle est tournée à Burbank.
Oui, mais l'action se passe quand même au Cook County de Chicago.
Ah pardon, non, tu parles de son... non parce que tu parles de Georges Clooney, tu ne parles pas de son personnage.
Non, mais
Dougross.
Et donc on se demandait comment ça se passait. Eh bien la mayonnaise a quand même vachement bien pris, parce qu'au fur et à mesure du remplacement des différents acteurs de la série originale, on se rappelle que Norwell, Dr. Carter, a été l'un des derniers à quitter le vaisseau lors de la saison 11 ou 12, on se disait on voit pas comment Yar va continuer à pouvoir captiver des audiences en masse. Eh bien c'est quand même le cas, ça risque de continuer à l'être avec l'apparition d'un nouveau patron. Alors Goran Vichnik a également tiré sa révérence, il n'y a pratiquement plus de héros de personnages principaux historiques de la série IR. On sait qu'il y a un nouveau patron qu'on avait aperçu dans les derniers épisodes de la saison 13, le docteur Moretti, très pet sec, très chiant et tout, le mec qui restait à côté comme ça, qui regardait tout ce que faisaient les médecins, les infirmières et tout, et qui prenait des notes genre ah non ça c'est pas bien, non tu me refais ça.
Il y avait le docteur Romano qui était pas mal aussi.
Qui n'y est plus.
Il avait perdu un bras d'ailleurs dans un hélicoptère.
Voilà c'est ça. Et le docteur Moretti interprété par quand même l'énorme, l'immense Stanley Tucci.
Rappelez-vous,
Wise Guy, un flic dans la mafia. Rappelez-vous, Murder One. Dans laquelle on a découvert un certain Anthony LaPaglia. Et l'équipe sous ses ordres, on retrouve Mickey Pfeiffer qui a l'air d'être maintenant le plus ancien de la bande. Docteur Abby Lockhart, c'est Maura Tierney. Docteur Moritz, c'est Scott Grimes, celui qui est presque rouquin comme ça, quoi. Celui qui veut se taper par Minangagra, mais manque de bol, elle préfère aller chez John Stamos. On la comprend un peu, John Stamos, c'est quand même le mec qui s'est tapé Rebecca Robin Stamos à l'époque.
Oh là là, l'enculé.
Et oui. 3 épisodes donc de cette 14e saison qui en compte 19 à partir de vendredi prochain, 20h50, c'est sur France 2. Ah, la musique elle tombe bien parce que j'ai une nécro à présent. On va rester un petit peu comme ça. Don S. Davis nous a quittés. C'était le 29 juin dernier, 66 ans, il était né en août 42 dans le Missouri et il est mort au Canada. Bon, laissez tomber, c'est une private joke. Le S de Don S. Davis, c'est Sinclair. Et on le connaît surtout pour son rôle récurrent du général Hammond dans Stargate SG-1. Alors il avait déjà travaillé, alors ça c'est faut remonter à loin quand même, 20 ans plus tôt, avec Richard Dean Anderson
MacGyver.
C'était lui le Pete ou de la Fondation Phoenix ou non?
Non. En fait on ne le voit pas dans MacGyver, il joue simplement le rôle doublure de Dana Elkar qui joue le rôle du patron de MacGyver. C'est-à-dire que tu ne le vois jamais, tu vois jamais.
C'est la doublure lumière, oui.
C'est la doublure, quoi, tu vois, quoi.
Alors, pendant que monsieur se repose dans sa caravane à boire son petit thé avec un petit peu de whisky, lui, il est là et il y a deux mecs en haut, là, tu vois, et qui font « Oh, quelqu'un peut me couper un gélat, là ?»
Alors, il n'a pas commencé sa carrière en étant acteur, genre tout jeune, « Oui, je veux faire acteur, j'ai vu John Wayne et tout. » Non, pas du tout. Il a commencé sa carrière dans l'armée américaine. Il était capitaine de l'armée américaine basé en Corée dans les années 70. C'est peut-être à ce titre qu'on le voit surtout dans des rôles de militaires. Il joue également le rôle du capitaine William Scully dans X-Files, le papa.
Et on le
voit également dans Twin Peaks, le major Garland Briggs les derniers épisodes de Twin Peaks, épisode 17, 19, 20, 21 et 22.
C'est le petit gros qui se perd dans la forêt.
Le petit gros, voilà, tout compris. Et on ne compte pas les apparitions dans d'autres séries. Alors là, j'ai une liste à tomber sur le cul. On l'a vu dans toutes les bonnes séries. En Wise Guy, où joue le rôle de Dr. Morris. Wise Guy, je répète, un flic dans la mafia. L.A. Law, c'est-à-dire la loi de Los Angeles, il joue le rôle d'un juge. Dans Booker, il joue deux dans deux épisodes, soit un juge, soit un gardien de prison. On le voit également dans 21 Jump Street, où il fait quand même 5 épisodes, dans Knots Landing, alias Côte Ouest, dans Highlander, dans Sentinelle, dans Un Colombo, un Colombo de 92, dans Profit. Alors là, je t'assure que je l'ai pas. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, mais ah, mais si, c'est vrai. Tu sais, quand ils vont chercher le père de machin et tout, et qu'ils tombent sur le shérif et tout, quoi, quand ils cherchent le père de Profit. Non, bon, laisse tomber. Bon, dans Andromeda également, dans NCIS, dans West Wing, dans Supernatural, dans Dead Zone, et il a fait également quelques petits rôles au cinéma. Et alors là, il s'est spécialisé dans les rôles de films de d'action, genre Cliffhanger dans The Fan et dans Con Air, tu sais, le truc avec Nick Cage.
Ah, là, donc c'est le patron qui aiguille un peu pour récupérer l'avion dans Con Air.
Ouais, certainement. Je me rappelle pas du
Con Air, c'est les ailes de l'enfer.
Les ailes de l'enfer, voilà.
Avec John Malkovich. Voilà. Tiens le monde.
Rest in peace, Don S. Don Sinclair Davis. Allez, j'ai décidé de faire
ça. Si vous avez pas la couleur, c'est assez rigolo parce que chaque fois que du sport parle d'un gars, en fait, il y a JB qui me demande. Alors, c'est lui qui joue dans. Non, c'est le barbu. Non, c'est pas le barbu. Et alors, lui, c'est le.
Ah non, je regarde jamais.
JB est pire que moi. Pire que moi.
Moi, les séries télé, je les zappe. Je sais pas ce que
Coupure
c'est.
Musicale, peut-être.
Ouais, si tu veux, ouais. Allez, vas-y.
Celle
allez,
que tu as.
Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Allez, roule. I'm the son of a bitch.
The Barcase, Son of Shaft. Wow.
Les Barcaze, donc, qui étaient une espèce de mouture, une espèce de groupe maison de l'écurie Stax dans les années 60, et qui a été le backing group de Isaac Hayes une fois qu'il s'est un petit peu libéré des chaînes qui l'emprisonnaient quand il était chez Stax, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est chanter, c'était jouer. Et au départ, chez Stax, c'était un auteur-compositeur, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui a composé Soul Man pour Sam & Dave. Il en a fait plein pour Sam & Dave et pour d'autres, pour William Bell. Enfin bon, tous les artistes maison de Stax. Mais seulement, c'est pas lui qui les chantait et tout. Donc au bout d'un moment, il a dit ouais, putain, merde, je sais chanter, je sais jouer et tout. Fait chier et tout, quoi. Et puis donc, il a commencé à sortir ses albums solo avec toujours les Barcaze en backing group, hein, qui ont composé, bon, qui ont fait la musique de ses meilleurs, de sa meilleure période, on peut dire, avant Scientologie, car Isaac Hayes est scientologue, il faut le dire.
C'est même pour ça qu'il s'est barré du casting de South Park, ouais.
Alors, oui, c'est vrai, chef.
Bah oui, mais ça, oui, il avait pas de problème à ce qu'on tape sur les Mormons, mais quand il y a eu un épisode où il tapait sur la Scientologie, il a pas aimé. Hein.
Alors,
j'ai vu que Beck aussi était scientologue récemment.
Bon, ah, bref, tu le vois, ouais, bah, c'est normal.
Ah bon. Vous m'expliquerez alors.
Laisse tomber. Alors, on va faire très court, hein, pas de les films de la semaine sur. Pas de
trucs
films
coupe,
avec des coupes-choux. Non, que dalle. Musique à la télé pendant une semaine. Tranquille.
Ah oui.
Ouais. Bah, parce que ça, y en a pas trop, hein, tu vois, quoi. Franchement, quoi. Alors, ce soir, sur Vivolta, à 20h45, ça n'a rien à voir avec Shaft, c'est Elvis Presley, 68 Comeback Special. Rappelez-vous, le retour d'Elvis.
Celui qui met à Hawaï ?
NBC. Non, pas Hawaï, pas quand il est gros et celui où il est tout en cuir et tout, quoi, au milieu de la scène et
avec
tout.
Avec le pelvis et tout.
Yes, avec les musiciens originels, ceux qui étaient là pour ses premiers enregistrements chez Sun dans les années 50. C'est ce soir donc, à partir de 20h45 sur la chaîne Vivolta. Demain, dans toute l'histoire. Alors là, la chaîne, il faut vraiment être câblé, numérisé, je sais pas ce que tu veux et tout,
faut
pour
avoir
celle-là.
Faut avoir tout AB là.
Ah ouais, là il faut y aller, hein, quand même. Il faut payer dans toute l'histoire, donc, qui est néanmoins une bonne chaîne. Eh bien, on nous propose un documentaire sur Billie Holiday demain soir à 20h55.
Ouh. Ah oui, s'il vous plaît.
Arte qui nous fait son Summer of 70s, donc de la musique à donf pratiquement toute la semaine, tous les jours sur Arte, dont Top of the Pops tous les jours de la semaine, je rappelle, à partir de 18h30, une demi-heure, c'est présenté par Manœuvre. C'est rigolo, c'est vraiment très bien, hein, y a de tout et n'importe quoi. C'est bien, les sélections de Manœuvre sont vraiment très très bien faites, je trouve, hein, y a vraiment de tout, quoi, c'est très varié.
Quand il dit ça, il faut imaginer que du sport quand même, il a sur ses genoux son petit gamin, il a son petit Virgile, et est en train de dire, en disant, tiens, écoute bien ça, là tu vas découvrir quelque chose.
Ouais, enfin tu vois, lui faire écouter Olivia Newton-John en 75 en train de chanter Goodbye to the Country Road, pas trop quoi, tu vois. Quoi, ou des groupes au nom imprononçable, genre Piquet Widdy, non, pas trop, tu vois. Quoi. Enfin bon, ça faisait partie hein, de cette émission. Hein, c'était quand même les disques qui marchaient fort, qui vendaient le mieux et donc qui passaient automatiquement.
Tu peux parler de disques, c'était du playback.
Oui, non, mais bon, c'était basé sur les ventes de disques. Hein, les apparitions étaient basées sur les ventes de disques, hein, de toute façon. Quoi. Alors, lundi sur Arte, à 22h25, un documentaire sur Lang Lang, un pianiste chinois. Non, c'est pas Jack, c'est Lang Lang, son nom et son prénom. Pianiste virtuose chinois qui a commencé le piano à l'âge de 3 ans, à l'âge de 5 ans, il faisait 7 heures de piano par jour. Il s'est barré de son pays parce que bon, il était un petit peu trop, je vais pas le dire parce que ça va faire trop de joke au premier degré, bridé.
Oh non.
Par les autorités.
Oh non.
Ouais, quand même. Et c'est à l'instar de.
C'est consternant d'avoir rigolé dessus quand même.
À l'instar de Nigel Kennedy pour la musique classique, c'est-à-dire qu'il essaie de dérider un petit peu la musique classique de la.
Oui, dérider. Et de coupe punk.
Des costards hein, et de la rectitude qu'il y a dans la musique classique telle qu'elle est présentée ou telle qu'on l'imagine. Hein. Donc Lang Lang en Chine, c'est sur Arte. À partir de 22h25 lundi prochain. Sinon, en même temps, pratiquement en même temps, sur Ciné Cinéma Premier, Diffusion à 20h45 de Walk the Line de James Mangold, l'excellente biopic de Johnny Cash interprété par Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon dans le rôle de June Carter.
Non mais je joue pas à ce jeu.
Je suis pas trop un fan de Johnny Cash. Hein, c'est un mec qui a tout piqué à Hank Williams de toute façon, quoi, ouais. qui doit sa renommée au fait qu'il a tout piqué. Donc un mec qui est crevé de trop jeune, mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça et puis c'est tout, quoi. Mais bon, le film est néanmoins intéressant, hein, pour les gens qui aimeraient découvrir un petit peu ce genre de musique. Quoique la country est quand même morte au début des années 50, quoi. Sur Arte, toujours mardi, bien là, c'est la soirée musique à fond les manettes. Plus, ouais, musique quand même. Avec une thématique qui s'appelle Black is Beautiful à partir de 21h. Et 21h, bien, c'est Shaft, donc l'original de Gordon Parks en 71 avec la musique, pas le Son of Shaft, mais le Shaft original, hein, de
Isaac Hayes.
À 22h40, un documentaire sur qui s'appelle Mr. Brown, Mr. James Brown, un documentaire de Philippe Manœuvre et de Philippe Priestley, suivi à 23h40 de James Brown en concert à Monterey en 79. Et suivi à 0h45, alors ça c'est bien parce qu'ils l'ont dans les cartons, alors tous les 2-3 ans ils le ressortent, mais bon, pour les gens qui l'ont jamais vu, c'est assez appréciable à regarder. C'est le film de Melvin Van Peebles, le père de Mario. Sweet Sweet Back Badass Song en 71, musique de Melvin Van Peebles et d'Earth, Wind and Fire. Melvin Van Peebles qui d'ailleurs a fait avant de retourner aux États-Unis faire ce film, était un collaborateur régulier d'un journal satirique qui s'appelait Harakiri Hebdo. Mercredi sur Arte, on change de style radicalement avec une soirée opéra et une soirée Aix-en-Provence. Tout d'abord, 21h, Passion d'Opéra, 60 ans d'art lyrique à Aix-en-Provence. Et comme le festival d'art lyrique à Aix-en-Provence se déroule en ce moment même, eh bien, à 21h55, mercredi prochain, pratiquement en direct, en léger différé, l'oratorio de Handel, Belshazzar.
Ah ouais, oh putain, ça sent bon.
C'est mercredi prochain sur Arte. Jeudi, il n'y a rien, mais par contre, vendredi, il y a une émission que j'aime beaucoup. Hein, je suis tombé dessus un coup par hasard, et puis bon, je suis resté scotché. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc et tout. Ça passe sur France 2 très tard le soir, 23h10, hein, donc bah, après, il y a vendredi prochain. Ça s'appelle La boîte à musique de Jean-François Ziegel. Il faut savoir que ce type-là était quand même cette semaine ou la semaine dernière à Toulouse, hein, dans le cadre des concerts Toulouse d'été. C'est un pianiste émérite. Et dans son émission La boîte à musique, eh bien, il invite différentes personnes, qui soient issues du monde de la musique ou non, c'est-à-dire amateurs ou professionnels, pour parler et pour désacraliser un petit peu la musique classique à travers des présentations d'instruments, des présentations de morceaux, des interprétations un petit peu différentes ou franchement rigolotes de grands classiques de la musique classique. Donc c'est vraiment très très bien fait. On voit que ces gens-là, que ce type-là a l'amour de sa musique, mais qui n'est pas totalement obtus quant aux musiques un petit peu plus modernes. Et justement, le titre de l'émission La boîte à musique de Jean-François Ziegel pour vendredi prochain, ce sont les modernes, avec comme invité Pierre Belmar, Julien Doré et dans un registre plus classique, Sandrine Piau qui est chanteuse, Philippe Foulon qui nous présente le baryton à cordes, qui est un instrument qu'on connaît plus du tout, hein. Même moi je sais même pas ce que c'est, quoi, hein, pour vous dire. Cassandre Berton qui est également chanteuse, Anne Kefelec qui est pianiste et Olivier Charlier qui est violoniste. Mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment très
sur
intéressant.
Hein.
C'est sur France 2, hein, 23h10 vendredi prochain.
Merde.
Quoi.
Et il y a Thierry Landouille qui a dit que France 2 ressemblait trop aux chaînes commerciales.
C'est un mec de droite, je crois. Mais je crois que t'es de moins en moins de droite. Et je suis un petit peu étonné là.
Non. Mais là, bon, bah, vraiment. Bon, il faut quand même un petit peu accrocher à la musique classique, car c'est quand même les œuvres classiques qui sont mises en avant au départ. Hein. Quoique désacralisées, donc ça fait du bien, quoi. C'est vraiment super. Et cette émission est rediffusée sur TV5 Monde et donc sur TV5 Monde jeudi prochain à 23h35, la boîte à musique de Jean-François Ziegel, là, bien, est consacrée à l'opéra. Avec comme invité Julia Migrenes, André Manoukian, Carl Zero et Nora Gubitsch, quoi, pour les plus connus.
Et Carl Zero a une passion pour l'opéra. Hein.
Ouais, non, mais bon.
C'est comme ça qu'il a fait son album.
c'est vraiment c'est, l'émission est vraiment très très bien. Bon, il y a du public, il y a un petit public hein, ça se passe sur un plateau tournant, il y a différents sets comme ça quoi, il y a des interventions rigolotes où Ziegel vient carrément s'installer à côté du pianiste et faire du piano quatre mains et tout. Enfin bon, c'est vraiment c'est prenant quoi. C'est vraiment prenant, même si vous n'aimez pas ce genre de musique au départ et tout quoi. Ça tient justement à démocratiser un petit peu ce genre de musique à travers une approche un petit peu rigolote, complètement décomplexée. C'est ça qui est très intéressant dans cette émission. Donc et bon, c'est la première fois que j'en cause et tout, alors que bon, ça fait 2 mois hein, que j'avais vu la première, ou il y a 1 mois et demi, quoi. Donc là, vraiment, ça vaut le coup, quoi. Donc la boîte à musique de Jean-François Ziegel. Sinon, je termine avec les deux séries de la semaine. Hein. J'avais titré la série de la semaine, mais bon, je me suis ravisé parce que bon, il y a quand même sur Syfy mercredi prochain à 20h45 le pilote de l'incroyable Hulk. La version Kenneth Johnson 77 avec Bill Bixby et Lou Ferrigno, hein, là, bon, ok, c'est de la balle, y a rien à dire, hein, c'est d'ailleurs ce film, hein, qui a flashé Louis Leterrier, quoi, et qui l'a incité à prendre le projet, l'incroyable Hulk, quoi, qui va débarquer bientôt au cinéma. Et sinon, la série de la semaine, ça reste quand même, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais sans l'avoir vu, hein, c'est Les Mystères de Sherlock Holmes. Sur Paris Première, mercredi prochain à 20h50, téléfilms qui sont un petit peu datés, hein, qui datent du début des années 2000. Celui de mercredi dernier datait de 2001. Celui de ce mercredi date de 2000, hein, filmé par Paul Marcus. Les Mutilés de la Tamise, interprété par Ian Richardson et Charles Edwards. Alors, il faut quand même savoir que du côté des séries anglaises tirées de détectives très connus, il y a deux interprètes qui ont plombé le rôle. C'est Jeremy Brett pour Sherlock Holmes.
Non, il a pas plombé.
Va passer derrière lui, quoi.
Ah pour oui, non, mais Sherlock Holmes. Ce que va je veux dire, il l'a marqué. Lui. Il l'a marqué.
Ouais, ouais, non, mais il a plombé le rôle, quoi. Tu vois, c'est maintenant les mecs qui vont essayer d'interpréter Sherlock Holmes. Ils vont avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal.
Attends. C'est Monsieur Tyrell.
Ouais, mais
plus humain que l'humain.
Ouais, ouais.
C'est sa devise.
Il y a également David Suchet, hein, pour Hercule Poirot. Quoi. Ah, c'est pareil. C'est pareil, hein. Maintenant, pour passer derrière, il va falloir être très bon, hein.
Attends, il y a aussi la réalisation de la série et les décors qui étaient exceptionnels, qui soulignaient bien aussi. Bah,
c'est la télé anglaise, hein, mon gars.
Ah oui, enfin, dans ce cadre-là, c'était la télé privée qui avait la BBC en face.
Ce qu'il y a de très intéressant, justement, dans Les Mystères de Sherlock Holmes, c'est que, bon, bah, je dis que ça date du début des années 2000, alors que toute la série des Sherlock Holmes interprétée par Jeremy Brett, qui s'attachait à retranscrire pratiquement littéralement les différentes aventures, les différentes nouvelles de Conan Doyle concernant Sherlock Holmes, là, eh bien, le titre, Les Mystères de Sherlock Holmes, nous induit un petit peu en erreur, car il ne s'agit pas de Sherlock Holmes, mais il s'agit, eh bien, de Conan Doyle, interprété par Charles Edwards, et de son mentor, c'est-à-dire son prof de chirurgie
c'était le professeur Glasgow, Bell.
Le professeur Bell, interprété par Ian Richardson, qui
le professeur Bell qui a été romancé par Joan Sfar en bande dessinée chez Delcourt.
Voilà, et donc ils se mettent dans la même situation que Sherlock Holmes et le Dr Watson, en fait, pour eh bien résoudre des enquêtes qui sont légèrement tortueuses et tout. Et là, c'est vraiment très très bien fait. Interprétation haut de gamme et avec version multilingue pour ne pas gâcher le tout. Donc vraiment, ça se regarde avec un immense plaisir. Hein. Les histoires sont des histoires originales. Donc on peut dire que là, au niveau scénaristique, ils ont quand même fait très très fort. Mais là, c'est la télé anglaise, donc on a l'habitude. On a l'habitude de toute façon. Les Mystères de Sherlock Holmes, c'est mercredi prochain sur Paris Première à partir de 20h50. L'épisode, c'est un téléfilm, ça dure 1h35, hein, Les Mutilés de la Tamise.
h 34 minutes, à 2 minutes près, c'est celle du geek. Mais néanmoins, on va s'arrêter là pour ce supplément week-end spécial super-héros et super-kung-fu. Thomas, peux-tu s'il te plaît faire le résumé pour ceux qui nous ont pris en cours d'émission?
Oui, donc il y avait beaucoup de choses, mais ce que j'en ai retenu, c'était que JB était parmi nous. Nous avons eu des super-héros, des enfants cruels, des animaux kawaii avec des chats et un panda, des veilleurs, un bouffon,
Oh la loose, JB, il connaît pas le générique d'urgence. La mort du général Hammond, de la zik à la télé, un pianiste chinois bridé, des classiques de la musique classique, une boîte à musique Xavier qui n'est plus de droite, et le retour de la télé anglaise.
Nom d'une dédicace du professeur Manhattan. Ils ont loupé tout ça. Heureusement. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission du Supplément Week-end, mais aussi toutes les précédentes, lire nos chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission. Pour cela, c'est très simple, vous allez dans la barre de navigation et vous tapez supplémentweekend.tk, sans accent ni tiret, supplémentweekend.tk. Sinon, vous tapez dans Google, Supplément Week-end, et là, c'est très simple. On arrive quasiment en premier. Vous pouvez pas vous tromper. Supplément Week-end MP3 ou Supplément Week-end FMR, si vous voulez être sûr. Vous tombez dessus sur nous. La suite des programmes avec votre cahier sportif sur FMR. À 15h du reggae et à 17h. FMR, c'est de ses programmes pour Radio Booster. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Avec du Batman face à Dracula.
Ouais. Nous, on aura. Je sais pas.
D'accord, et puis du sport qui aura tout le temps d'y réfléchir. En tout cas, nous, on se retrouve ce soir, on se fait un après-show comme ça, dans un jardin en arrière-cour. Et puis voilà, ciao, bye bye, see you, à la semaine prochaine, je sais pas, peut-être avec JB.
Absolument, si je peux, si j'ai pas
t'arrêtes
de faire
le couillon, j'arrive. T'arrêtes de faire le couillon, toi, avec ta compote de poche, oui. Ça frit le cerveau, ces engins. Allez, ciao, bye.
Ciao, ciao.